Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
C'est ça, c'était il y a une semaine exactement, cet attentat contre l'état de droit et la démocratie, c'était les mots du président brésilien Michel Temer, après donc cet assassinat de la conseillère municipale de Rio, Marielle Franco, une des deux élues noires de la ville. Bonjour Jean-Jacques Kourlianski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et chercheur associé à l'IRIS. Alors, le meurtre de Marielle Franco a fait réagir jusqu'à l'Organisation des États américains et l'ONU. Elle a été abattue de 4 balles dans sa voiture à la sortie d'une réunion féministe. S'agit-il d'un crime de haine ou d'une exécution ciblée? En tout cas, le crime est d'autant plus brutal que noire, lesbienne et militante LGBT, Marielle Franco incarnait les combats d'une partie minorée de la population brésilienne et qu'elle menait depuis longtemps une campagne active contre les violences policières, souvent impunies, à Rio de Janeiro, la ville dont un quart de la population vit dans une favela. Elle avait dénoncé d'ailleurs la récente arrivée en février de l'armée fédérale en ville, signe d'une faillite du système, de l'aveu même du ministre de la Défense, mais un signe qui peut être aussi l'envers d'une politique sociale très dure depuis l'arrivée du président Michel Temer. En tout cas, le symbole est perturbant, alors qu'une campagne présidentielle, je le rappelle, incertaine, commence au Brésil avec des relents de militarisme. La violence sociale va-t-elle se transformer en violence politique? Si on s'attarde un instant sur Marielle Franco, femme noire, mère et issue de la favela de Maré, grande favela de Rio, c'est comme ça qu'elle se présentait. Un symbole social quand même, vous l'avez dit, une des deux femmes noires du conseil municipal de Rio.
Et elle était également une élue de gauche. C'est important à souligner, donc minoritaire, puisque aux dernières élections municipales, la majorité, le maire qui a été élu, c'est un révélateur de l'évolution du Brésil d'aujourd'hui, est un évêque de l'Église universelle du royaume de Dieu, un personnage assez intolérant,
Marcelo
qui
Crivella.
A même baissé les subventions au carnaval, qu'il considère comme une création culturelle satanique.
C'est ça qui est intéressant avec elle aussi, c'est aussi un parcours politique, vous le dites, auprès du PSEL, ce parti Socialisme et Liberté, et aussi une géographie sociale de Rio qu'elle dessine à travers son parcours, née dans une favela, et elle a fait ses études dans l'université, plutôt vers les beaux quartiers, vers Copacabana.
Oui, elle a fait des études terminées par une maîtrise consacrée au problème de l'insécurité générée par la politique de l'État lui-même, de l'État pénal, et donc en cohérence avec son engagement de toute sa vie, puisqu'elle était originaire d'une favela du nord de Rio, près de l'aéroport, qui a été marquée par toutes sortes de violences, et qui l'est toujours aujourd'hui encore. Elle était notamment, ainsi que vous l'avez souligné, rapporteur désignée par le conseil municipal de Rio pour assurer le suivi du développement des opérations militaires décidées par le président Temer le 16 février dernier.
Et alors justement, dans ce contexte, quelle lecture est-ce que vous faites, vous, de cet assassinat? Je le disais, est-ce que c'est un crime de haine ou un assassinat ciblé? On a beaucoup glosé sur le fait que les balles provenaient d'un stock de la police, et c'est vrai que la méthode ressemble aussi à un assassinat, il faut le dire.
Bon, il faudra voir ce que dit l'enquête, si cette enquête arrive à dévoiler quelque chose, compte tenu du fait que 90% des assassinats ne sont jamais éclaircis au Brésil, à Rio, pas plus qu'ailleurs. Elle dénonçait les bavures policières, elle avait notamment ciblé récemment sur son blog et sur ses tweets un bataillon de la police militaire qui venait d'exécuter 5 jeunes gens dans une favela, et qui, depuis 2011, a abattu plus de 500 personnes, suspects, coupables ou non. Ce ne sont pas des méthodes, effectivement, d'une police démocratique. Là. Un autre chiffre, en 2017, selon des statistiques officielles, la police a abattu, dans l'État de Rio, 1124 personnes. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, elle dérangeait beaucoup de monde. Le constat que l'on peut faire, même si on n'a pas d'éléments concrets permettant de désigner des coupables, c'est que ceux qui l'ont tué étaient des professionnels des armes et que ça ressemble effectivement à un règlement de compte, une exécution.
Et précisément, outre ce 41e bataillon de la police militaire qui, lui, fait beaucoup parler de lui par ses actions qui interrogent, il y a au moins 4 forces de police ou de sécurité militaire qui sont installées à Rio, des unités de police pacificatrice UPP, la police militaire, ce qu'on appelle les BOPE, bataillons des opérations de police spéciale, et l'armée fédérale là-dessus, plus de 8500 500 soldats envoyés l'année dernière. Mais qui est-ce qui tient la politique sécuritaire à Rio? Et est-ce que ça veut dire que l'État de Rio ne peut plus l'assurer lui-même?
Alors effectivement, il y a un grave problème d'insécurité au Brésil. Un autre chiffre, il y a eu 60 000 homicides, tout compris ces 50 000 en Syrie. Donc effectivement, ce ne sont pas des personnes qui meurent sous les bombes. Il n'y a pas d'image spectaculaire à montrer dans les médias, mais c'est un chiffre qui doit inciter à réfléchir, qui est révélateur d'ailleurs d'un malaise général en Amérique latine.
Au point que le ministre de la Défense, Raoul Jungmann, a parlé de dérive à la mexicaine, vous êtes d'accord ?
Oui, à condition d'introduire un deuxième élément. Au Mexique comme au Brésil, les dérives que l'on constate aujourd'hui sont largement dues, même si on ne peut pas faire de lien de causalité absolue, à la régression sociale que l'on constate dans ces pays. Les gouvernements qui sont en place utilisent les politiques sociales comme régulateurs budgétaires. Au Brésil, l'année dernière, par exemple, les programmes sociaux, le programme phare s'appelle Bourse Famille. Donc on est à moins 8%, plus d'un million de personnes ont été rayées des listes. Ce qui n'a pas du tout arrangé la situation sur le plan de la sécurité. Bon, le gouvernement a fait le choix de compenser ses déficits en matière sociale par une suractivité, une présence au moins médiatique en matière de déploiement des forces armées pour régler un problème qui relève pourtant pour beaucoup du social tout autant que du sécuritaire.
Et je le disais, là, Marielle Franco était née cette fameuse année où il y avait eu des lois d'amnistie pour les militaires de la dictature. On voit un général, Eduardo Villa-Boas, le commandant en chef des armées, qui demandait des garanties, je le cite, de pouvoir agir sans le risque que surgisse une nouvelle commission vérité. L'ONU s'en est inquiété. Qu'est-ce que ça indique du climat sécuritaire et du poids des armées au Brésil aujourd'hui?
Oui, il y a une évolution de la situation. Dans la mesure où le gouvernement entend sécuriser les problèmes sociaux, il y a une dérive vers une remilitarisation de la vie politique au Brésil. Le constat d'ailleurs que l'on peut faire en ce qui concerne les prochaines élections du 7 octobre de cette année, c'est que le candidat le mieux placé derrière Lula est un ancien militaire de la dictature, Jair Bolsonaro, qui, pour justifier son vote destituant la présidente Dilma Rousseff le 16 avril 2016 au Congrès des députés, est arrivé en tenue militaire et a revendiqué l'héritage pour lui positif de la période de la dictature militaire. Il a d'ailleurs été interrogé sur l'assassinat, l'exécution de la conseillère Marielle Franco, et le journaliste qui voulait lui poser les questions n'a pas réussi à le trouver. L'un de ses conseillers a fait savoir à la presse qu'il n'était pas en état, étant en dérangement physique, de répondre aux questions concernant cette affaire.
Un des rares à n'avoir pas commenté, non. Même Michel Temer, je l'ai dit, a commenté ce meurtre. Lui, Bolsonaro, qui disait « bandido bom et bandido morto », un bon bandit est un bandit mort. Dernière chose, justement, vous disiez, il est bien placé, 20% des intentions de vote. Il a également réuni des représentants des marchés financiers. Est-ce qu'il pourrait avoir une chance de gagner sur une ligne très dure? Et est-ce que c'est ça le Brésil qui se préfigure cette année?
Depuis 2016, le Brésil vit dans un état d'exception constitutionnelle. Donc tout est possible. D'autant plus que ceux qui ont organisé cette destitution tout à fait inconstitutionnelle de la présidente Dilma Rousseff n'ont pas de candidat à opposer au président Lula, à l'ex-président Lula, qui est en tête dans les sondages, mais qui risque d'être incarcéré. Le fait qu'il n'y ait pas de candidat de la droite qui a organisé le coup d'État laisse le champ libre à celui qui arrive deuxième derrière Lula dans les sondages. Et ce qui apparaissait tout à fait invraisemblable il y a un an, on rentre là dans le champ des possibles, où le Jair Bolsonaro pourrait effectivement être élu dans ce contexte exceptionnel qui est celui du Brésil aujourd'hui.
Voilà, à voir si ce Trump tropical créera la surprise. Toute dernière question, très rapidement, sans jouer les Cassandres, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres types de violences politiques, comme on vient de le voir à Rio, de ce genre? Il y a eu une campagne, là encore, très dure à Rio l'année dernière pour les municipales, 15 ou 20 meurtres politiques, je crois, de candidats.
Oui, la situation est très dégradée. Disons qu'il y a une intolérance croissante dans la société brésilienne. Donc, dans la mesure où les plus hautes autorités de l'État ont transgressé la Constitution, ont transgressé la loi, le message est passé dans l'ensemble de la société. Et donc le constat que l'on peut faire, c'est celui d'une montée des violences et d'une montée des intolérances, et non seulement des intolérances politiques, des intolérances sociales, mais aussi des intolérances religieuses, puisqu'aujourd'hui, les courants évangélistes qui ont le vent en poupe sont passés des dénonciations verbales aux violences physiques et à l'incendie des lieux de culte comme démoniaques des afro-brésiliens. Donc la situation de ce point de vue au Brésil est assez préoccupante.
Bon, à suivre en tout cas avec cette élection en fin d'année. Merci en tout cas pour aujourd'hui Jean-Jacques Kroliansky, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, chercheur à l'IRIS, bien sûr, informations et vidéos sur le site internet. Et demain, on parle de l'Afrique, premier accord en perspective pour un marché commun.